France Inter.
À vous qui nous écoutez en podcast, mais quelle chance vous avez, quel bon goût d'écouter Asma Mala, qui est chercheuse en sciences politiques spécialisée dans les enjeux de la tech et qu'on retrouve au bistrot. Bonjour Asma Mala.
Bonjour Charline.
Bienvenue dans mon bistrot.
Merci beaucoup. Alors, merci pour l'accueil.
Mais avec joie, vous êtes chercheuse. Je me demandais, est-ce que le samedi soir, vous cherchez aussi?
Sérieusement, en ce moment?
Ouais.
Grave.
Ah ouais?
Ouais.
Ah, le samedi soir, il n'y a pas de...
Mais no life. Mais
bon, oui. Donc là, on va s'ambiancer un peu, on va profiter.
Ouais. Et en plus, Charline, mais, j'y pensais en traversant la rue. Il y a 4 ans de ça, je me cherchais beaucoup.
Ouais.
Et j'avais pondu un concept de podcast. Et mais c'était celui-là, mais avec le bruit, et j'ai encore
mais
le
non.
Pitch. D'une certaine façon, vous réalisez mon rêve.
Oh là là, bon écoutez, venez installez-vous sur
merci.
La
banquette.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Bon ben à ce moment-là, on va faire votre émission donc, que vous avez vous-même imaginée et que j'ai mis en place. Voilà.
Donc, exactement, c'est un travail de fine équipe.
Voilà, bon moi je... Je commence quand même par vous présenter en quelques lignes, en disant que vous êtes chercheuse en anthropologie politique, spécialisée dans l'étude de l'intelligence artificielle et de la big tech, donc les géants du web.
Ouais.
Vous étudiez la façon dont ils font système,
oui.
Un système politique,
oui.
Et on va voir, antidémocratique. On vous entend régulièrement dans les médias à ce moment-là, et j'ai entre les mains votre livre « Technopolitique » paru au Seuil, et de vous entendre et de vous lire, je me fais « Waouh, mais qu'est-ce qui me prouve que la meuf, c'est pas une IA ?»
Ah, c'est ouf. Ça démarre fort. En revanche, j'ai eu plein de commentaires de gens. Oui, alors vous êtes une IA. Et je me demande s'il n'y a pas un côté extrêmement peut-être froid de la démonstration. Pourtant, je ne pense pas être quelqu'un de froid.
Ah non, pas du tout.
Non, hein.
Ah non, c'était une blague. Hein, mais on vous l'a déjà demandé.
Mais
vous
vraiment
êtes une IA.
Ouais.
Bah, vous êtes une tronche, en fait.
Il y a un côté vraiment de... Tronche. Suis-je une tronche?
Bah,
non,
oui.
Je crois pas.
Vous n'êtes pas une tronche.
Non.
Moi, je vous ai lu, vous êtes une tronche. Hein.
Non, j'ai compris un truc.
Bien faite.
Oh, c'est gentil, Charline. Non, mais j'ai vraiment compris un truc, pour de vrai. C'est que chacun a un fonctionnement de cerveau particulier qui lui est propre.
Mm-hmm.
D'accord. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a pas de bon ou de mauvais fonctionnement. Et avec les années, j'ai compris comment le mien fonctionnait. Je suis, par exemple, très mauvaise sur le détail, sur l'opérationnel. En revanche, j'ai toujours besoin de comprendre les grands ensembles. Les grandes idées. Et après, je descends. Et c'est vraiment... Chacun a sa façon d'appréhender le monde, la connaissance, le rapport aux autres. Mais moi, j'ai toujours besoin d'avoir ma grande matrice où je vais ranger mes petits trucs. Et après, on peut descendre sur le détail. Et d'autres personnes vont avoir besoin du détail pour monter vers l'ensemble.
Ah ouais. Voilà. Bah, vous m'avez donné la clé pour vous interviewer. Donc... C'est une bonne chose,
ouais,
déjà
les
pour commencer.
Ensemble.
Vous êtes humaine. Et donc, on va commencer par l'humain, alors, à ce moment-là. Vous êtes moitié turque, moitié tunisienne. Vous avez grandi en Tunisie et vous êtes arrivée en France après le bac sans un copec. Vous aviez juste une couette dans la valise. Qu'est-ce que vous foutiez avec une couette dans la valise?
Parce que je devais préparer mes affaires dans donc, ma valise. Et pour moi, la France, c'était le nord. Et donc, dans le nord, ben, il fait froid.
Ouais.
Et il neige. Et c'était vraiment le truc grelottant, quoi. C'était un truc miséroïde. Et donc, je me dis, bah, de quoi je vais avoir besoin absolument? D'une couette pour avoir chaud.
Eh ben oui, c'est malin.
C'est logique. Hein.
Ouais, vous avez pensé au général et après au particulier. C'est bien ce que vous avez
tout
dit.
Comme d'hab.
Oui, c'est vrai. Mais à ce point qu'il vous est arrivé de dormir dans la rue, c'est arrivé.
Alors, mes premières années en France, ouais. Alors, mes deux premières années, elles ont été ultra. Isolée, mais aussi protégée, parce que la raison de ma présence en France, c'était de faire, et la condition d'ailleurs de ma bourse, c'était de faire des classes préparatoires. Donc j'étais dans le foyer de Janson de Saillé, qui est le lycée où j'ai étudié, donc on était relativement, c'était très militaire, très froid, on ne faisait que travailler, c'était un foyer de filles, avec des filles, toutes étrangères, et on était relativement protégées. Mais dès l'instant où j'ai réussi mes concours, qui étaient toujours la condition pour rester en France d'ailleurs, les premiers jours ont été très compliqués, parce que je n'avais pas du tout anticipé le... Disons la bascule logistique, je n'avais plus ma place au foyer. Et donc, mon démarrage a été une forme de précarité estudiantine, mais comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et ce qui est étonnant, mais je le comprends avec beaucoup de recul maintenant, c'est que quand on y est dans ces fragilités d'existence, bah, on ne se le dit pas en vérité. Donc, on est dans des survies, dans une combativité, on y va. Et donc, je n'ai jamais vécu ça comme bizarrement un trauma.
Oui.
Et jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a forgé, qui a été très difficile, qui forge un caractère, une force de caractère sans doute, une résilience, on appelle ça comme on veut, mais je n'y appose pas un regard de souffrance ou de misère.
Mais enfin, résultat, vous dormez 4 heures par nuit.
Je dors très peu, ouais. c'est peut-être le stigmate et l'angoisse. Ouais, non, peut-être, ouais. Il y a peut-être un lien.
Et pendant ce temps, vous êtes notamment à l'ESCP, École de Commerce.
Ouais.
Vous avez kiffé l'École de Commerce?
Zéro, mais c'était mais un cauchemar. Mais c'était, mais je me suis embêtée, mais comme un rat mort, mais littéralement. Et je n'en garde strictement aucun souvenir d'aucun cours. Je suis incapable de vous dire ce que j'ai pu apprendre, retenir ou étudier là-dedans. Mais vraiment, en revanche, ça a été un passeport socialement. Parce que moi, quand je suis arrivée en France, j'avais en gros zéro capital culturel, social, financier ou économique. En revanche, j'ai eu ce diplôme et qui m'a ouvert des portes. Et donc, d'un point de vue très pragmatique, ce que j'étais déjà à l'époque, je me dis « Ok, aucun intérêt intellectuel, littéralement. Enfin, moi, personnellement, je ne me suis pas du tout amusée dans ces études-là. En revanche, ça va m'ouvrir des portes pour m'en sortir. Et donc, il faut l'utiliser comme ça.
Mmh. Et vous vous retrouvez dans une banque d'affaires où vous restructurez les dettes.
Ouais. C'est de la fusion acquisition et des financements, ce qu'on appelle du LBO. Donc, ouais, c'est de la structuration de dettes sur, des, par exemple, des projets publics-privés, d'infrastructures ultra-stratégiques. Mmh. Et là, je me suis éclatée littéralement. Ah. Je sais qu'on a l'habitude... de dire que la banque d'affaires et le conseil en strat, c'est vraiment des boucs émissaires un peu... Même, je trouve, un peu facile.
Oui, mais moi je dis jamais ça, moi. Vraiment, les banques d'affaires
jamais, oh,
Non, c'est formidable. Je rêve de banque d'affaires, moi.
Vous avez senti à quel point je me suis mise à bégayer?
Oui, on sent que...
Ah, je suis pas très... J'ai perdu mon assurance.
Ouais, vous êtes pas à l'aise avec cette histoire de banque d'affaires.
Enfin, pas face à vous, en tout cas. La meuf qui a su, vraiment. Non, moi, j'ai adoré parce que ça a été une école de rigueur, de méthodologie, parce que j'y ai appris beaucoup, parce que j'ai gagné ma vie, parce que j'y ai rencontré surtout des gens qui ne m'ont jamais, et j'ai été jusque-là protégée de ce point de vue-là dans mon parcours en France. Jamais je n'ai été réduite à une femme ou à une étrangère, à aucun moment. Ce qui compte dans ces milieux-là, c'est ta performance. Et dans un très mauvais français, et en fait en anglais, on dit c'est up or out. Tu montes ou tu dégages. Et donc, en fait, ce qui compte, c'est à quel point tu vas être bon dans ce que tu fais. Et donc, j'ai été considérée comme un cerveau et pas comme une femme ou une case de diversité
quelconque.
T'es bon
ou tu dégages. C'est comme ça que fonctionne Macron, qui sort d'une banque d'affaires.
Mais il vient de là.
Oh là là, mon Dieu.
On comprend
tout, mais oui. Donc, je voulais dire qu'à ce moment-là, la performance, on regarde votre performance, c'est pas votre couleur de peau, pas votre orientation, etc. La performance, ça permet d'éviter les discriminations.
Moi, je suis un cas extrêmement particulier parce que je viens de l'étranger, parce que j'ai eu une bourse, parce que c'était des fléchages par le gouvernement français. Donc, c'est très particulier. Donc, je ne peux apporter aucun discours politique structurel et structuré sur les questions de méritocratie parce que je n'en viens pas. Ce n'est pas du tout mon histoire personnelle et je n'ai pas été confrontée ou vue ça. Donc, je ne vais pas m'approprier une histoire qui n'est pas la mienne. En revanche... Dans ces milieux-là, vraiment, banque d'affaires, conseil en stratégie, la barrière plus que la discrimination se fait au recrutement. C'est-à-dire qu'on a des recrutements et qui, en effet, uniformisent. C'est-à-dire qu'on va recruter des batteries de cerveaux suréfficients et qui vont très vite et qui dorment très peu et qui travaillent beaucoup. Ça, c'est clair.
Oh là là, je flippe. Non, je vous jure, je flippe. Je vais boire un coup là-dessus. Vous voulez pas qu'on fasse chin-chin?
Allez.
Oh, c'est samedi soir, on se détend. Mais alors,
vivre chill. Non,
j'ai oublié de me servir du coup là-dessus. Je vous fais chill, mais je me suis même pas servi le verre. Ça m'a traumatisée, ce que vous venez de me dire. Franchement, je suis traumatisée par la performance. Mais comment ça s'évalue, la performance, alors?
Des indicateurs. Votre abnégation, c'est le mot qui m'est venu un peu naturellement. On a des évaluations extrêmement régulières. Ce sont des grilles, des critères d'évaluation. Ce sont ce qu'on appelle des feedbacks, des retours sur la façon dont vous avez géré telle ou telle mission ou tel deal. C'est aussi des choses qui sont non dites. Par exemple, dans le conseil en strat, vous avez deux grandes, disons, familles de compétences. Pardon, il y a beaucoup d'anglicisme, mais c'est vraiment une espèce de travers de ces milieux-là, j'avoue. Mais c'est les hard skills et les soft skills. Les hard skills, c'est est-ce que tu sais modéliser sur Excel? Est-ce que tu sais faire ta modélisation de cash flow? Est-ce que tu sais faire tes...
De cash flow.
Ah, pardon. c'est toute la modélisation financière, que tu projettes.
Ouais, les hard skills, quoi, ouais.
Ouais, donc ça, c'est hard skills. Ouais. Et puis après, tu as les soft skills. Ouais. Donc en fait, c'est tout ton comportement. Est-ce que tu apprends vite? Est-ce que tu dis oui, merci? Est-ce que tu acceptes les retours et les feedbacks? Enfin, en fait, à quel point tu vas rentrer dans le moule, d'une certaine façon.
Et
ça formate, de fait.
Et donc, quand par exemple, une émission, elle a des très bonnes audiences en radio, on peut dire que c'est une performance?
Ouais.
Ah, cool.
C'est bon, ce sont vos KPI, ce sont vos indicateurs de mesure.
Ah, ok. Non, c'est pas pour moi, c'est pour une amie.
C'est ça. Donc, si on cartonne, c'est bon, go.
Ok, super. Je le note. Vous politisez les enjeux de la tech. On va en parler dans un instant. Et cet intérêt politique, est-ce que vous le tenez un petit peu de votre grand-père?
Ouais.
C'est pas une blague.
C'est une vraie question. Non, c'est une vraie réponse. Ouais. Ouais. Mais attention, c'est quelque chose qui, je ne l'ai jamais connu.
Ah,
mais
non.
Okay. Mon grand-père est mort très très jeune dans des conditions pas très claires, mais surtout c'était un penseur et un leader politique du mouvement décolonialiste en Tunisie. Et il a laissé mon père orphelin très jeune, mais par l'entremise de mon père et plutôt de ses silences d'ailleurs. Il y avait quelque chose comme ça de très qui s'est transmis dans le silence. Mmh. Et oui, il y a une dimension très politique. Alors maintenant, je la romance. C'est l'histoire que je me raconte et que j'aime me raconter, qu'il y a quelque chose de l'ordre de la du fil d'une histoire familiale que j'essaie de reprendre. Mon père est décédé, mais il a toujours eu une vision très politique d'à peu près tout des choses. Et je me souviens que c'était une espèce de grand fan C'est dans l'air, mon père. Ouais, ouais. Donc, petit, on regardait l'émission, forcément ça. Ouais. Mais il y avait en plus.
Les émissions politiques à la télé.
Toutes les émissions politiques, géopolitiques, okay. C'était un mordu de ça. Et puis, oui, il y a l'histoire familiale avec ce grand-père qui est une espèce de légende et dont l'ombre a toujours plané comme ça. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui s'est transmis, ouais. Un peu de façon épigénétique, peut-être, je sais pas.
Et enfin, à la suite d'une phase d'épuisement très, très fort où vous vous arrêtez un long moment. Vous avez une révélation en écoutant l'émission Hors Champ de Laure Adler.
Ouais.
Donc, vous êtes là un peu grâce à Laure Adler aujourd'hui,
mais
sur France Culture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette révélation?
En fait, en 2016, je suis tombée malade et donc j'étais hospitalisée pendant longtemps, quelques mois. Et donc, on l'a compris, j'ai fait une école de commerce qui m'a vraiment embêtée beaucoup, mais qui m'a servi à me sortir de ma situation et de faire un métier que j'aimais beaucoup, mais que je ne pouvais plus, en tout cas, exercer à ce moment-là de ma vie. Et donc, plutôt que de me dire de faire une dépression, de s'arrêter là ou de pleurer toutes les larmes de son corps, j'ai pris ce temps-là, qui était un temps d'arrêt physique, biologique, imposé, pour m'instruire d'une certaine façon, c'est-à-dire combler les trous. Et mon obsession à moi, mais qui vient probablement de ce père et de ce grand-père, c'est toujours de comprendre le monde, les nouveaux systèmes, de donner du sens, de me raconter l'histoire qui est en train de se jouer. En gros, ne jamais rester étranger ou étrangère à son monde, et ça c'est fondamental. Et ce qu'on vit aujourd'hui dans notre époque, c'est une dépolitisation, moi, qui me sidère et contre laquelle je me bats et contre laquelle il faut que nous nous battions tous, en fait. Et donc, c'était cette instruction, probablement, qui me manquait et que donc je suis allée piocher, mais vraiment comme ça, par curiosité, en picorant à droite à gauche. Et je tombe sur Hors Champ, Laure Adler, France Culture à ce moment-là. Je me souviens, c'était tous les jours à 20h. Et qui m'a, en fait, donné ma culture générale. Mais en tout, théâtre, je me souviens qu'il y avait elle avait fait une émission sur Coltas et les chants de coton. Donc ça allait dans tous les sens, littéralement. Musique classique, vraiment théâtre contemporain, architecture, philosophie. Et un jour, elle reçoit Bernard Harcourt, qui est un juriste et un défenseur des droits de l'homme et des couloirs de la mort américains, et qui est aussi un penseur, et qui avait sorti un bouquin à l'époque en anglais, qui essayait de comprendre les réseaux sociaux, mais par le prisme du panoptique et de Foucault, toute la pensée de Michel Foucault. Et je ne sais pas pourquoi, c'était sur ce sujet-là que ça s'est fait, j'ai eu une espèce de révélation intellectuelle totale, et donc c'est comme ça que j'ai attrapé le sujet.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie.
Et nous en arrivons là à la publication de Technopolitique, votre ouvrage paru au Seuil, qui est déjà un best-seller, sous-titré « Comment la technologie fait de nous des soldats ». La Big Tech, donc les géants de la tech, donc ça va de X Twitter d'Elon Musk à Meta ou vers ChatGPT avec Sam Altman, ouais. C'est ça. Vous dites « c'est l'ennemi de notre démocratie ». La Big Tech, elle militarise notre démocratie. Vous avez une punchline de ouf qui dit « Nos cerveaux sont un champ de bataille. Chacun d'entre nous est un bon petit soldat passif du camp ennemi, en fait. » Alors, moi, je pensais qu'on était la cible. On peut être à la fois la cible et le soldat.
C'est parce que vous êtes la cible que vous êtes le soldat. Forcément, c'est l'autre face. Alors, les Big Tech, c'est quoi? C'est les géants technologiques américains. Est-ce que je dis qu'ils sont fondamentalement antidémocratiques? En l'occurrence, et en l'état, la façon dont aujourd'hui ils idéologisent un paquet de réflexions, par exemple Elon Musk avec Twitter ou Sam Altman avec OpenAI qui a sorti ChatGPT par exemple, ou un autre dont on parle très peu mais qui est tout aussi puissant qui s'appelle Peter Thiel, qui est le patron de Palantir par exemple. Oui, il y a des idéologies plus ou moins sédimentées, plus ou moins solides, ils ne forment pas un tout, si vous voulez, homogène. Il faut vraiment les prendre un à un pour comprendre un peu leur spécificité et leur maturité idéologique. Mais toujours est-il que la question démocratique, au-delà de la question des personnes, c'est de dire quoi ? En tout cas, c'est mon hypothèse et c'est la démonstration que j'essaie de faire dans Technopolitique. C'est que toutes ces technologies-là, intelligence artificielle, réseaux sociaux, implants cérébraux, satellites, câbles sous-marins, en fait, sont des infrastructures socles à partir desquelles se déploie tout le reste dans notre nouveau siècle, c'est-à-dire le fait politique, le fait militaire, le fait industriel, le fait économique, le fait social. Faire du lien, faire de la désinformation, faire la guerre. Aujourd'hui, ce sont des acteurs absolument systémiques. Le problème, c'est que ces infras, ces outils-là, quand on les met en système, sont privatisés en effet par quelques acteurs. Et c'est là que je commence à avoir un problème. Le problème n'est pas la technologie en tant que telle, parce que je crois qu'il faut qu'on fasse avec. La question est qu'elle est privatisée par quelques-uns et qu'on a un problème de gouvernance. Et si on dit, et c'est ce que je dis, ce sont des infrastructures d'abord de nature publique, parce qu'elles permettent tout ce qu'elles permettent, elles ne peuvent plus donc être prises en otage d'une certaine façon, entre guillemets, par quelques-uns. Et en plus, quelques-uns qui sont américains ou chinois quand ils sont chinois.
Et qui ont un profil particulier parce qu'ils sont proches de l'alt-right, donc
certains,
plutôt
ouais.
certains l'extrême droite américaine.
Certains d'entre eux, oui.
Plutôt masculinistes aussi.
Parfois aussi, ouais.
Ouais.
Pas systématiquement. Un Altman, pas forcément. Musk peut avoir des tendances. Peter Thiel, ça peut être plus assumé. Et puis surtout, quelqu'un comme Peter Thiel, c'est très intéressant, a quand même sorti un assez long article en 2009 qui explique en quoi, en fait, la démocratie est l'ennemi de la liberté. Or, ce sont des gens qui sont pour la liberté au sens de la liberté d'innover, la liberté d'entreprendre, mais aussi parce que il l'explique, mais il faut simplement les lire, que la démocratie, c'est quoi ? C'est une forme de dictature de la moyenne, des médiocres. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un frein à leur forme de génie. Et sur la question des soldats, juste, c'est de se dire, le choc technologique qui vient nous percuter, une de ses caractéristiques, c'est que ces technologies-là sont duales, c'est-à-dire qu'elles sont civiles et militaires à la fois. Les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être très cool pour aller mettre votre recette de fondue, vos potes, faire de la veille, peu importe, ludique, pratique, perso, bon, pro même, pourquoi pas. Mais en même temps, ce sont des espaces d'influence, de lutte informationnelle, d'ingérence, de manipulation cognitive. Et de ce point de vue-là, vous êtes utilisateur, vous êtes citoyen, vous êtes cible. Mais dès l'instant où on a compris que vous êtes tout aussi hybride que les technologies que vous utilisez, alors vous êtes aussi un combattant de ça.
Ça vous arrive de sortir des phrases genre « qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» ou « qui sort la poubelle ?» Rassurez-moi.
En vrai ? En ce moment ?
Ouais.
Non.
Alors, c'est ce que vous appelez aussi la technologie totale, une technologie qui englobe le monde. Dans ce que vous venez de dire, ça me fait penser à cette phrase que j'ai relevée de votre ouvrage. Vous dites « la technologie totale, elle est indifférente à la pensée, mais elle a besoin que vous produisiez de la pensée, des logorées virtuelles en quantité, sans fin, des pseudo-pensées que vous vous empressez de faire connaître, c'est ça qui compte, des micro-pensées qui sont autant de données monétisables, manipulables. » Donc en fait, on est leur pétrole.
On est absolument leur matière première, ça c'est clair, et on fabrique de la donnée, j'insiste sur le verbe fabriquer, c'est pas que juste on lâche là de la data, c'est vous la fabriquez. Et on parle beaucoup des écrans en ce moment, on les interdit, pas les interdit, enfin toute cette polémique. L'enjeu derrière c'est que c'est l'engagement, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte de vous garder le maximum de temps sur ces plateformes pour que vous produisiez de la data. La donnée que vous produisez, personnelle, enfin, c'est toutes vos traces numériques, non seulement servent à vous micro-cibler quand on en a besoin, ça peut être de la manipulation politique, comme vous poussez le dernier aspirateur que vous avez regardé la semaine d'avant ou je ne sais quoi. Donc ça peut être ou publicitaire ou politique. Quand c'est de la pub, ça va encore. Quand c'est politique, c'est extrêmement problématique. Mais surtout, donc il y a la question du micro-ciblage, mais surtout, il y a la question de plus on vous engage, plus vous produisez de la data, plus c'est ce qui va en fait permettre derrière d'entraîner les intelligences artificielles, qui aussi sont au cœur de rivalités géostratégiques entre États-Unis et Chine, par exemple. La puissance de calcul, comment est-ce qu'on alimente aujourd'hui toutes les IA dont on parle, dont les IA génératives ? Ben en fait, en les alimentant avec de la donnée. Au bout d'un moment, on va arriver à une limite de ça. Donc, il y a aussi toute une intention de vous garder un maximum de temps pour la monétiser d'une part, mais pour produire de la matière première.
On nourrit la bête, c'est
ça ? Bien sûr, on la nourrit, mais on sait qu'on la nourrit, non ?
Oui, bah oui. Oui, on sait bien.
Enfin, et pourtant, on y va quand même.
Et on y va quand même, oui.
Donc, c'est que donc, nous ne sommes pas coupables, mais responsables.
Mm-hmm. C'est très logique. Mon rapport à la technologie, c'est d'avoir un très, très vieil iPhone et de me battre pour me rappeler mes mots de passe. En cas de conflit technologique, est-ce que je vais être la première victime? Vous pouvez être franche avec moi, hein, je suis prête.
Avec vos mots de passe?
Bah, avec une vieille technologie.
En fait, pour vous répondre plus directement, plus on technologise une société et donc nos usages, plus en fait on devient vulnérable parce que plus on crée des points justement de soit de cyberattaque, enfin c'est essentiellement ça, des opérations de vol de mots de passe pour vous récupérer des données personnelles, pour faire des arnaques, etc. Donc ça c'est clair et il y a toute une opération de sensibilisation, non pas à démarrer parce qu'elle existe déjà, mais en tout cas à marteler auprès de tout le monde, parce que oui, tout le monde peut devenir ou peut être absolument une cible. Récemment, il y a eu toutes les datas, là, toutes les données de France Travail, enfin une partie de France Travail qui ont fuité. Avant ça, c'était les hôpitaux, là, c'était plutôt des cyberattaques. Donc que ce soit des organisations, disons, vitales, un hôpital, ou juste vos données de sécurité sociale, il faut à chaque échelon que l'on soit absolument vigilant avec de nouveaux réflexes, disons une forme d'hygiène cognitive. Ce qu'on préconise beaucoup, par exemple, c'est, vous savez, les authentifications à trois niveaux. Mmh. Alors ça fait perdre un peu de temps, quelques secondes en plus, ça peut être très relou parce qu'il faut envoyer des codes et des machins, mais c'est quelque chose qui est ultra préconisé. Et je me dis, à y réfléchir, moi-même je ne le fais pas parce que ça me saoule. Mais et pourquoi ça
me
saoule ?
Ah bah bravo.
Ouais.
Ah bah d'accord.
Et pourquoi ça me saoule ? Parce que ça me fait perdre du temps, mais parce qu'on est complètement obsédé par cette espèce de vitesse permanente. Il faudrait qu'on arrive à décélérer
même
un tout petit
peu. Même vous n'y arrivez
pas. Non. Non, mais je l'assume assez.
Charline Vanhoenacker, Bistroscopie sur France Inter.
Si vous nous rejoignez, je suis attablée au bistrot avec Asma Mala, chercheuse en anthropologie politique, spécialisée dans l'étude de l'IA et de la big tech des géants du web, la façon dont ils font système politique, et qui publie Technopolitique paru au Seuil. On évoquait Elon Musk, qui tient par exemple défi Mark Zuckerberg, et il propose de le castagner dans une cage sous forme de MMA.
Ouais.
S'ils se tuent entre eux, le problème est réglé ou pas?
Non.
Zut.
C'est ça le problème. Et c'est ce que j'ai
parce qu'ils
dans le livre.
Ils s'entendent pas en fait.
Alors c'est Dallas.
Ah,
la Silicon
c'est pas vrai.
Valley, c'est
mais
Dallas.
Non.
Mais littéralement.
Racontez-moi ça.
Ils se connaissent tous les gars.
Ouais.
Non mais vraiment. Et par exemple, les mentors de Sam Altman, donc le fameux patron d'OpenAI et ChatGPT, pour replacer dans le contexte, ces deux mentors, c'était Peter Thiel qu'on évoquait tout à l'heure et Elon Musk.
Peter Thiel, elle a fait aussi PayPal, c'est ça?
Ouais. Mm-hmm. Et surtout, il a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Il a été aussi un des premiers financeurs de... Qui ça? Facebook Zuckerberg. Mais oui, je vous dis, c'est un tout petit monde. Ouais, il était dans le conseil d'administration.
Ouais.
Et...
C'est le showbiz de la tech.
C'est les boys clubs. Boys club. C'est que des gars.
C'est ça.
Vous aurez remarqué, d'ailleurs.
Bah oui,
des
oui.
Mecs.
Mais des gars, bah, on l'a dit, un peu voilà, virilistes.
Ouais, c'est
puis vous, au milieu, vous êtes une meuf qui les embête.
Alors, je crois qu'ils savent pas, il faut que j'existe. Enfin, pour le
oui,
moment.
Oui, mais bon, pour nous, là, maintenant, à ce micro, c'est justement une femme qui vient les embêter.
C'est souvent des femmes.
Et pourtant, c'est violent, ce monde. Qu'est-ce qui vous pousse à vous pencher sur toute cette violence?
Parce que ça l'est. Parce qu'en fait...
J'aimais bien la castagne.
Non, parce que la technologie, c'est un prétexte, je vais vous dire.
Ouais.
C'est un prétexte, c'est un sujet, c'est un objet d'étude qui concentre et qui cristallise à peu près tout sur les questions de pouvoir, les abus de pouvoir, les rapports de pouvoir, les jeux de pouvoir, les relations de puissance. La puissance est toujours relative, c'est toujours une relation, c'est transactionnel. Les questions d'injustice et la question de la liberté, qui est pour moi probablement la valeur, quelque chose de cardinal chez moi, vraiment. Être libre. Alors, il faudrait encore s'entendre sur qu'est-ce que ça veut dire, dans quel champ, ça s'arrête où, ça commence où, etc. Mais être libre, avoir une marge de manœuvre, avoir une parole, être entendu, c'est la question des contre-pouvoirs, en fait. Donc, la question démocratique. Et parce que c'est un sujet système qui, en fait, remet au goût du jour des questions éternelles. Par exemple, la liberté d'expression, c'est quoi ? On saurait le définir, on l'a défini très très bien à la fin du 19e siècle. Mais aujourd'hui, on se retrouve à se reposer la question. Sur les réseaux sociaux, c'est quoi? Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Ça commence où? Ça s'arrête où? Et qu'est-ce qu'on fait des zones grises? Parce que c'est elles qui posent le plus de problèmes. Ce qui passe sous le coup de la loi, c'est clair. Mais ce qui est tendancieux, on en fait quoi? Et si ça devient ultra viral, parce que le modèle économique derrière, parce qu'on revient à leur statut juridique boîte privée, qui fonctionne à la performance et à la rentabilité. On en fait quoi ? Et donc tout d'un coup, ça remasterise, ça modernise, ça nous pousse, ça nous oblige à nous reposer des questions politiques, existentielles et collectives. Ce qu'en fait, on a complètement perdu. La deuxième moitié du XXe siècle, en fait, n'a été scandé que par des processus de dépolitisation d'à peu près tout, des tricotages du lien social, du commun. En fait, on a construit collectivement, et c'est pas tant de se dire c'est la faute, des sociétés de survie psychique, économique. Quand on survit, on n'est pas solidaire. C'est chacun sa gueule. Et donc, il va falloir qu'on sorte un peu de ça, cette fabrique de la crise permanente, pour essayer de se dire qu'est-ce qu'on fout ensemble et est-ce qu'on a envie de continuer à faire des choses ensemble.
Parce que quand on survit, c'est difficile de réfléchir.
On ne peut pas. On n'a pas réfléchir. Bah oui. On n'a pas le temps de ça.
Mais comment est-ce qu'on explique que les principaux acteurs du progrès, ils n'aient pas des idées progressistes, ils ne soient pas progressistes?
Parce que c'est un progrès technologique, ce n'est pas un progrès social, c'est pas le progrès de la connaissance.
Et oui.
Et en fait, ça pose une question excellente, ma chère Charline.
Allez-y, c'est votre émission, en fait, ce que vous voulez.
Non, ça pose la question de Bernanos, que j'aime bien. J'invite vraiment tout le monde à le lire. En tout cas, il avait sorti un bouquin qui s'appelait « La liberté, pourquoi faire ?» Il se posait la question de ce concept de liberté. Et donc, je reprends le truc à mon compte, mais la technologie, pourquoi faire ? La vraie question, c'est pas la technologie, oui, non, c'est bien, c'est mal, cette binarité un peu débile. C'est plutôt de se dire, nous, on a des outils à disposition, ultra mal gouvernés en l'État, mais c'est toujours se demander à quelle fin, quel est le projet de société ? Et à échelle locale, on le pense, ça, cette question-là, beaucoup mieux qu'à échelle nationale. Par exemple, il y a des territoires qui font des projets, ce qu'on appelle de smart city, vous avez de villes intelligentes, qui se disent, moi, mon projet, à moi, collectif, sur mon agglomération, c'est de faire un territoire zéro carbone. Ça, c'est un projet. Et je vais utiliser la technique, la technologie, l'IA, les mesures d'impact ou les mesures de la consommation énergétique pour, en fait, mieux gérer ma transition vers ce projet. Donc, en fait, il faut remettre toujours la technique à sa juste place. Elle n'est pas une fin en soi. Et c'est là où on s'est complètement gouré. C'est pas l'innovation pour l'innovation. Ça, c'est la folie furieuse. Et c'est la folie dans laquelle on vit. C'est plutôt de se dire, c'est des outils, pourquoi faire ?
Faut leur donner un sens. Faut qu'on leur donne un sens.
Et on leur donne pas.
Est-ce qu'il existe une approche féministe de la tech ?
C'est une très bonne question. Il y a pas mal de lanceuses d'alerte aux États-Unis qui sont davantage américaines, femmes, pardon. Donc ça, oui. Une approche féministe, ça, c'est pas trop, bizarrement, mes sujets de prédilection. Est-ce qu'il y a, en tout cas, des revendications à une meilleure représentativité ou une représentation des femmes, c'est clair. Et ce qui avait mis, à un moment donné, le feu complètement aux poudres, c'est vers 2017, je crois, de mémoire. Il faudrait vérifier. Vous savez, on a commencé les expérimentations de reconnaissance faciale. Et notamment, un des logiciels de Google présentait des taux de succès, c'est-à-dire vraiment reconnaître quelqu'un à partir d'une image donnée, donc l'identifier, avec des taux vraiment super hauts, 98% de taux de succès. Mais attention, c'était quand la personne identifiée était un homme blanc. Pour les femmes noires, elles étaient à plus de 30% assimilées à des singes. Et donc, ça pose un énorme problème de la représentation des femmes. Mais pour alimenter votre algorithme, il faut donc, disons, équilibrer, mieux former les datasets, c'est-à-dire en fait les jeux de données qui vont venir alimenter les entraînements. Et donc, c'est de ce point de vue-là, oui, il y a tout un champ à continuer, si vous voulez, à pousser, à investiguer. Mais c'est davantage des sujets d'éthique technologique ou du numérique et qui sont relativement bien préemptés, je dois dire.
Alors, la France, est-ce qu'elle a les moyens de devenir un géant du numérique ? Parce qu'on est quand même le pays de SNCF Connect, Parcoursup.
Albert.
C'est qui Albert ?
Albert, c'est l'IA, là.
Ah, je connais pas.
Si. Ils ont sorti l'IA. L'IA souveraine.
Notre IA, elle s'appelle Albert.
Albert, ouais, c'est chaud, hein.
C'est hyper crédible.
Albert en grève. Albert en vacances.
Mais non. Bon, ok. Question suivante, alors, peut-être.
Voilà.
Sur l'IA, vous avez déclaré, je me rappelais, c'était sur France Info, la France, là, doit faire tout le contraire de ce qu'on est en train de faire.
Oui.
Je voudrais pas vous affoler, mais est-ce que c'est pas un petit peu valable dans d'autres domaines ?
Si, mais je serais une imposture à aller me mêler des affaires qui ne me regardent pas.
D'accord.
Mais si. Non, ce que je disais à ce moment-là, c'est, en fait, ils venaient de sortir, vous savez, leur énième rapport sur l'intelligence artificielle à la Commission. Bon, et donc globalement, ce que j'étais en train de critiquer et que je maintiens comme critique, c'est que la France, c'est un peu ce pays, disons, de république monarchique ou l'inverse, ou peu importe, qui en fait va mettre beaucoup de commissions, beaucoup d'auditions, beaucoup de rapports, beaucoup d'agitation. Mais à la fin, c'est plus tellement. On sait ce qu'il faut faire. Enfin, à la fin, on sait. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de se répéter 1000 fois et de refaire 40 milliards d'auditions. Enfin, à un moment donné, il faut juste y aller, il faut juste se lancer et y aller. Quitte à se tromper, c'est pas grave, mais y aller, prendre le sujet. Et c'est un peu ça que je critiquais, c'est un peu ces pertes de temps qui sont en fait de la com politique davantage, plutôt que juste faire. Et rapport à la culture du risque, ça me fait penser à ça. Mmh. Vous m'avez pas posé la question, mais je vous réponds quand même.
Allez-y, faites les questions et les réponses. D'habitude, c'est moi, j'ai l'habitude, je comprends très très bien.
Non mais ça me fait penser.
C'est génial, j'appuie sur play, fais question et réponse, j'adore. Je vais vous laisser, puis on va faire... Si on faisait 5-6 numéros de cette émission, comme ça moi je prends un mois de vacances.
Et puis la meuf, elle s'arrête pas.
Elle s'arrête, la meuf s'arrête jamais. Vraiment, il y a un truc, elle a une puce électronique la meuf, c'est pas possible. Non, allez-y, le risque.
Non, la culture du risque. Il est vrai que la question technique, elle est toujours à comprendre, inscrite dans un contexte politique, industriel, économique donné. Mais... ce qui est très intéressant, c'est la DARPA. La DARPA, c'est quoi ? C'est l'agence d'innovation de rupture du Pentagone. Oula. D'accord. Bon, ouais. C'est l'agence d'innovation, celle qui fait plein d'innovations ultra risquées, bizarroïdes, pour le compte du Pentagone américain. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que eux, on parlait tout à l'heure de performance. On commençait comme ça. Donc, les indicateurs de mesure de la performance. Si je vous demandais, Charline, concentrez-vous. Ouais, si je vous demandais...
j'ai un terreau oral. C'est mon émission, je vous rappelle. Hein. Pardon, mais bon.
C'est la main.
Attends. Ok, c'est moi l'interviewée maintenant.
Non, mais, question très simple. Ouais. Si je vous demandais, d'après vous, quels sont les critères de mesure de succès de la DARPA pour ses collaborateurs ? C'est-à-dire que vous avez réussi votre mission au sein de la DARPA si, je vous donne deux choix, si vous avez réussi vos projets ou si vous avez échoué vos projets. Intuitivement, vous me diriez quoi ?
Bah, réussi. Rien que le mot réussi, c'est guidé. C'était les guidés comme
exact.
Question.
Exactement. Eh ben non. À la DARPA, en fait, vous êtes gardé et vous êtes maintenu si, en fait, vous avez un taux d'échec supérieur à 80%. Pourquoi ? Parce que plus vous échouez, ça veut dire que vous avez essayé, que vous avez tenté, que vous avez pensé hors cadre. C'est pas grave si ça échoue. Ça veut dire aussi que vous avez 20% de succès. Ça n'a rien à voir comme pensée.
C'est un investissement humain, en fait.
Ouais, et c'est tout l'inverse. De chez nous, on est comme ça, très apeuré par le risque, très ronron. On ne développe pas des stratégies de puissance, des politiques de puissance, en étant ronron, en ronronnant.
C'est-à-dire que Elon Musk... de risque.
Oui, Elon Musk, pourquoi est-ce qu'on parle de lui de façon aussi hystérique, d'ailleurs ? Il a un rapport au risque qui est total. C'est-à-dire que le gars, en fait, il est capable de tout risquer et de tout mettre sur la table. Et donc, votre retour sur investissement est égal à votre risque. C'est assez logique. Mmh.
Mais ça, on peut se permettre quand on est dans le privé, mais dans le public, c'est plus délicat, non ?
Bah, la DARPA, c'est public. Ouais.
Bah oui, justement. Mais oui, bah, c'est les Américains.
Oui, mais en même temps, là, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est public, mais en fait, ça fonctionne beaucoup avec le secteur privé. C'est là aussi un blocage qu'on a en France, culturel. C'est-à-dire que le public est d'un côté, le privé est de l'autre. La plupart des stratégies aujourd'hui un peu gagnantes, la Chine, les États-Unis, Israël, Turquie, sur les questions technologiques, ce sont des pays qui ont hybridé, c'est-à-dire qui travaillent beaucoup entre public et privé, qui ont fusionné le civil et le militaire. En fait, les frontières, si vous voulez, les représentations classiques qu'on avait jusque-là, héritées du XXe siècle, elles périclitent, elles bougent, elles se liquéfient. Or, en France, on reste très figé sur nos réflexes, nos dogmes, très XXe siècle, d'une certaine façon. Donc, c'est peut-être ces évolutions-là qu'il faut commencer peut-être à acter. Et si on ne les acte pas, à ce moment-là, à se demander comment on fait avec notre culture propre.
En plus, vous avez devancé ma question, donc vous avez deviné. Et voilà. Vous avez fait les questions et les réponses, mais je l'avais écrite, la question. Hein.
C'était quoi ?
Non, j'avais mis comme question, pourquoi le politique se soucie-t-il peu de la politique de la tech ? Et de sa visée idéologique. Est-ce qu'ils ont peur ? Est-ce qu'ils manquent de compétences ? Est-ce qu'ils ont une confiance aveugle dans la technologie, etc.
Non, ils le savent. Mais en fait, les gains politiciens sont trop peu visibles à très court terme. Or, la politique aujourd'hui, c'est vraiment de la gestion de très court terme. C'est des managers, les gars, du risque. Ils font du management de risque. Or, la question technologique, ça suppose de répondre à la question suivante, existentielle. Qu'est-ce que la France dans 30-40 ans ? C'est clair qu'on va pas gagner des élections avec ça, visiblement. Encore que. Donc ceux qui investissent ça, ce sont plutôt les extrêmes. Et sur les questions technologiques, ceux qui sont assez avancés, c'est par exemple l'extrême droite.
Oui.
Ça pose des questions.
Qui oblige leur cadre à être formé aux IA depuis le mois de janvier.
Et qui ont un vrai discours là-dessus. Ouais. Un discours politique, et d'ailleurs qui est servi sur un plateau mais d'or, parce qu'en fait c'est une autoroute vers le souverainisme qui est en fait leur marque.
C'est comme ça que, oui, ils adulent Elon Musk aussi. Et voilà, donc l'alt-right et l'extrême droite française ont des accointances et ça passe par la technologie.
Ouais.
J'espère que nos autorités vous ont lu, hein, Technopolitique paru au Seuil à ce moment-là. J'ai une devinette pour vous.
Oula.
Attention, Asma, c'est pas facile.
J'adore deviner.
Concentrez-vous aussi. Hein. Attention, comment s'appelle notre ministre en charge du numérique ?
Marina Ferrari.
Ouais.
Mais parce que je pense que c'est la cousine à Laurence.
Oui, mais c'est vrai.
Putain, c'est... Oh là là, j'ai le même moyen mnémotechnique. C'est la cousine de Laurence Ferrari, c'est comme ça que je l'ai retenue. On en est là, Asma. Vous la connaissez ou pas?
Non.
Vous ne l'avez pas rencontrée? Ah d'accord. Donc, vous avez...
Alors, mais ça, ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois... C'est... Alors, il y a deux choses. Un, ouais. C'est à chaque fois des gars du Modem qui prennent le poste. Alors peut-être que c'est bien, hein, ouais. Je sais pas. Mais
c'est... Oui, c'est du Modem, donc...
Non, ça veut dire que c'est de la...
Relativement à Internet, c'est, mais sûr, c'est une bonne idée.
Ça veut dire que c'est toujours de la négo. Tu sens que c'est des tractations bizarres. Que c'est pas pour... parce qu'il y a une réflexion politique sur la question, mais parce que c'est de la négo, de la tambouille, quoi.
Évidemment.
Donc un, et deux, c'est quand même... Quand on y pense, c'est quand même fou de se dire on a un ministère comme ça, clos, dédié à une question qui est à ce point globale et transverse. C'est quand même bizarre.
Ah oui. Alors, ce que vous proposez, vous, qu'est-ce que c'est? Dont vous prendrez la tête bientôt. Hein. Faites-vous votre poste. Allez.
Non, bah, il n'y a pas de poste. Moi, ce que j'avais...
Comme c'est transverse, il faut que vous soyez Premier ministre, en fait.
Non, mais vous avez vu sa littératie sur les questions de technologie. Enfin, c'est Albert. Enfin, c'est la... Et interdire les écrans. Enfin, c'est pauvre comme vision politique, quand même, de ces sujets-là. Non, celui qui se débrouille pas mal sur la question technologique au sens géopolitique, rapport de force, compréhension, réglementation sur la partie défensive, enclencher quelques actions sur la partie plus proactive industrielle, c'est quand même, on doit bien le lui reconnaître, Thierry Breton à la Commission européenne. C'est lui qui, en 2019, quand il arrive, va changer le discours, va changer la rhétorique politique en disant c'est la fin de la naïveté, on va entrer dans un rapport de force. Il faut qu'on entre dans un rapport de force. Et donc, à échelle, disons, Union européenne, il y a une vraie, disons, conscience politique et géopolitique de ces questions-là. À échelle nationale, je pense qu'on est dans un vide politique, mais qui est sidéral et sidérant. Mais littéralement, ça me choque, parce que pourtant, c'était leur promesse, c'était la promesse de la jeunesse, c'était la Startup Nation, quand même, à l'époque. Hein.
Et oui, en fait, je me rappelle, oui.
Mais
oui,
oh là là, c'est qu'est-ce vieux. Qu'il en est resté? J'ai l'impression d'être chez Margaret Thatcher avec No Future en face, quoi. Non, mais c'est un désespoir, mais sans fin, ce truc.
Qu'est-ce qu'on fait, alors, pour pas désespérer?
Eh ben, on fait le job à leur place.
Ok.
On écrit, quand, c'est pour ça que j'ai écrit Technopolitique, on sensibilise, on fait des émissions, on parle, il faut absolument repolitiser la question. Et il ne faut surtout pas céder à la fatigue psychologique, à se dire que c'est foutu, à se dire qu'on est dans une impuissance. Individuellement, c'est clair. Mais si tout d'un coup, on commence à propager cette idée-là qu'on peut refaire société, qu'on peut essayer, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et que la principale boîte noire, c'est en fait notre avenir, parce qu'il reste à construire. Il ne nous est jamais imposé. Ça serait une fatalité noire que de le croire. Eh bien, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses ultra intéressantes. Et je crois qu'il y a plein d'initiatives.
Gardez cette énergie, à ce moment-là. Mais... Gardez cette énergie. Vraiment. Mais non, c'est vrai.
Et je peux dire un dernier
truc. Mais c'est votre émission, en fait, que vous voulez.
C'est
à ce
vrai, moment. En plus. Pourquoi je demande l'autorisation?
Bah oui, enfin, on est dans la liberté totale, on prône la liberté, allez-y.
Eh bien, au Festival du Livre, j'ai fait un débat avec Benjamin Fogel, et je name drop son nom parce que je pense qu'il faut absolument découvrir...
C'est qui, Benjamin?
C'est un romancier de science-fiction et d'anticipation qui est absolument génial, génial.
Ah, parce qu'eux, ils ont tout compris, hein. Il suffit de les lire, ils ont compris quand on les lit.
Mais vraiment. Ouais. Et donc, il se trouvait que j'étais en débat donc, avec ce Benjamin Fogel, dont je recommande vraiment la lecture. Et donc, on en est arrivé dans ce moment de la discussion, donc où je racontais un peu tout ce que je viens de dire, mais autrement, etc. Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ce qui est en train de devenir, ce qui est déjà devenu la norme, c'est notre vie virtuelle, c'est notre double numérique, c'est tout ce qu'on fait sur Internet. Parce que même si vous avez l'impression que vous vous exposez, que vous narrez d'une certaine façon...
Qu'on croit qu'on a la main, qu'on a la maîtrise.
En fait, vous ne mentez jamais à Google, n'est-ce pas, Charline? C'est-à-dire, quand vous allez faire vos petits searches, là, vous
ne
mentez pas.
Moi, j'ai tapé à ce moment-là, Google, il sait que je vous reçois.
Hein. Ouais, donc vous n'avez pas tapé un autre nom pour tromper Google, on est bien d'accord?
Non,
donc,
j'adorerais.
On ne ment pas à Google.
Ouais.
Donc c'est très difficile. En plus, il y a toujours cette collecte de données, puis les graphes sociaux, et puis on sait mettre en lien toutes vos données sur un temps très long, etc. Vos interaction sociale. Donc on sait exactement qui vous êtes.
On pourrait s'amuser à se dire, allez, on trompe tous Google pendant 3 minutes tous les jours. Par
exemple. Mais qu'est-ce que 3 minutes par rapport à tous les usages par ailleurs? Enfin, on pourrait s'amuser à ça. Mais enfin bon. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, dans nos usages numériques, virtuels, technologiques, d'une certaine façon, c'est plutôt là que réside une forme d'authenticité ou ce que nous sommes vraiment à l'insu de nous-mêmes. Et alors, ça voudrait donc dire, en miroir, que c'est le réel qui serait notre nouveau refuge, nos lieux de résistance. Se voir, se rencontrer, l'école, l'université, les lieux. Et de ce point de vue-là et à cet égard-là, c'est le réel qui est une page de résistance.
À ce moment-là, qui, avant de devenir présidente de la République dans le futur, Asma 2034.
Yalla.
Ça y est, je le sentais. Je savais que j'avais une winneuse avec moi. J'ai senti la winneuse. Ouh là là, ça y est. Bon, alors, prenez-moi dans votre équipe. Allez, c'est parti, je vous suis.
Ministre de quoi ? Du numérique ?
Je suis pas assez compétente.
Culture ?
Non. Ouais, culture.
Et éducation ?
Ouais, ah ouais, mais donnez-moi un super ministère comme Catherine Vautrin et tout ça. Je veux bien.
Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Non, mais elle est où ?
Déjà, on a retrouvé son nom, on est contents.
C'est classe.
Technopolitique. Comment la technologie fait de nous des soldats ? C'est paru au Seuil. Chaleureusement recommandé, comme toutes les interviews d'Asma Mala, la future présidente, bien sûr. Merci beaucoup, yes, Asma.
Allez.
On vient de lancer une campagne
à
long terme. On va bien niquer.
À la France.
On va bien niquer Elon Musk.
Charlie, c'est quoi ? C'est vive la France, vive la République ? C'est ça ? C'est quoi la punch ?
Bah, moi, je suis belge déjà, donc
je suis.
C'est vrai.
Mais c'est clair, le hold-up du siècle, le casse politique du siècle.
Bah ouais, bah pourquoi pas. C'est pas une technologie monde ?
Bah ouais.
On y va.
On se fait un ticket.
Voilà, c'était Bistroscopie. Ophélie Vivier en est la chargée de programme, François Audouin le réalisateur, Yvan Turc-Hénin à la technique et Guillaume Ficheux au mixage. À samedi prochain, 19h20.